pas entendre les cris. Et ensuite, elle va se marier, elle va faire des enfants. Elle n'était pas tout à fait là, on dit. Mais Lacan, il a là aussi cette très belle phrase. Il dit, ce n'est le lieu du malheur que pour ceux qui en sont loin. Parce que arrêtez de nous faire pleurer avec les malheureux. Occupez-vous de vos oignons. C'est ça ce qu'il faudrait dire aux roux. Hein? Les roux, parce que c'est les roux, le roux. Il faudrait quand même qu'ils nous... Ils vont pas nous intimider avec leur histoire de nous faire croire qu'ils vont s'y retrouver, dans les malins. Non, non, le point c'est que, vous voyez, il y a, on peut donner des exemples. Alors je vais vous donner un exemple extrêmement rudimentaire de rupture de semblant. C'est un petit truc que vous connaissez, que vous pouvez très bien imaginer de connaître ça. Si vous ne l'avez pas connu, vous pouvez l'imaginer, puisqu'il y a des milliers d'exemples différents. Imaginez simplement un gamin qui va le samedi au Mammouth ou au Codec, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là, disco, attaque, avec ses parents. Les parents, le père, il pousse le caddie, c'est le père qui pousse le caddie, la mère, elle est à côté, elle prend les trucs, elle prend les trucs familiaux, ça c'est plus économique, c'est de plus en plus gros, on les met dans le caddie. Bon, et les mômes, ils tournent autour, et puis ils voudraient un chewing-gum, ils voudraient un machin, puis on leur donne des baffes, on leur dit non, alors ils pleurent. Et ben, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il se passe qu'un jour, il y a un môme, il va au marché, comme ça, le samedi avec ses parents, il se promène dans les rayons, puis au détour d'un rayon, qu'est-ce qu'il voit? Il s'éloigne un peu des parents, et qu'est-ce qu'il voit? Son instinct. Qui voit toute la semaine, qui est en train de pousser le caddie comme son père avec les enfants qui sont autour et puis la femme qui est à côté qui fait comme sa mère. Oh, le môme, il fonce vers ses parents, il gueule, mais il gueule parce que ça ruisselle un maximum, vous voyez, rupture de semblant. Le monsieur Martin, à mon instinct, là, celui qui a la blouse blanche ou grise, ou je ne sais plus comment ils sont habillés, ou ils sont en survêt maintenant, mais. Lui, là, il est là, c'est monsieur Martin qui est là. Vous vous rendez compte? Alors, les parents, ils s'en foutent. Oui, écoute, arrête, on est pressé, c'est samedi. Et le monde, mais pour lui, c'est un événement, c'est une rupture de semblant, c'est la découverte que le Père Noël existe. Ou n'existe plus. C'est toute la question. C'est la question du Père Noël, le semblant. Mais le problème, c'est que s'il y a certains sujets qui savent plus lire, et ben, pour eux, c'est pas le Père Noël. Quand ça se rompt, ça se met à délirer, ils sont jetés dans la machine infernale, dans laquelle ça tourne dans tous les sens, et ça leur donne l'impression que ça ne s'arrête plus. Alors c'est là qu'il faut arriver à bien faire une différence entre quelqu'un qui délire parce que ça ne s'arrête plus, et puis quelqu'un qui c'est très fréquent, beaucoup plus fréquent, on qualifie de psychotique des tas de phobies. Le sujet de la phobie, il suffit qu'il ait affaire, qu'il mélange l'objet A et l'idéal, hop, il est sous hypnose, et puis vous avez des gens qui hantent les couloirs des hôpitaux, on dit qu'ils sont psychotiques, là, parce que c'est vrai que s'ils sont un peu somnambules, on se dit, oh, il s'est passé quelque chose dans leur vie, mais c'est pas du tout la même chose, la rupture de semblant chez un sujet qui est dans le cas d'une phobie. Vous voyez, les phobies, vous avez le champ des phobies avec... L'addiction, par exemple, ça peut donner l'impression, le mec, il y a des types qui vous racontent ça, moi j'ai pris du LSD, et puis je suis resté, hop, accroché au plafond. Bon, ben c'est pas du tout évident, parce que il faudrait quand même apprendre à distinguer entre quelqu'un qui est sous hypnose, même permanent, et quelqu'un qui délire. Ça nécessiterait peut-être d'apprendre à lire le délire comme Freud le lit chez Schreber. Et puis Freud, lui, il est d'autant plus à l'aise avec Schreber, nous dit Lacan, que Schreber, il a laissé un écrit. Alors c'est encore mieux pour Freud, parce que Freud, c'est un champion du monde de la lecture et de l'écriture. Alors que Lacan, c'est un champion du monde de la parole. Freud, il est là, et Lacan, il est là. Et ils font la même chose, il y a la même différence entre la psychanalyse freudienne et la psychanalyse lacanienne, c'est la même différence qu'entre la langue parlée et la langue écrite. Et en plus, vous voyez, on dit facilement que c'est la même. C'est évident que c'est pas la même, mais c'est la même. Bon, donc Lacan, il est tout à fait fondé à dire, moi j'ai pas fait quelque chose d'autre que la psychanalyse. La psychanalyse, elle est seulement, il y a le style écrit et le style parlé. Et entre les deux, il y a ces choses qu'on apprend à lire avant de savoir écrire. Voilà. Je crois que c'est la plus grande difficulté pour nos contemporains, c'est d'arriver, moi je l'ai lu chez Leroy Gourand et chez Lacan, c'est les seuls endroits où je l'ai lu, même Derrida a pas pigé ça, c'est les endroits où on, il faut arriver à penser que, comme le dit Leroy Gourand, pour qu'un peuple, une tribu invente un système d'écriture, un système graphique effectif, on ne peut pas ne pas supposer qu'il ne sait pas déjà lire, que la population de ce groupe ne sait pas déjà lire. Donc il faut savoir lire pour inventer une écriture. Alors lire quoi ? Ben justement, c'est ça le trunaire, c'est ça le trait identificatoire qu'on prélève comme dans une caricature sur le visage de l'autre. Bon. Donc voilà un petit panorama que je fais. Ça, c'est des choses que je suis en train, pour la suite, m'occuper de ce nœud à trois. Et en ce moment, je suis en train de m'occuper de cette rotation et de ces permutations. Ici. Là, je me suis même acheté un livre d'algèbre. J'ai vu qu'on fait des livres d'algèbre vachement bien maintenant pour les undergraduates. De mon temps, ça n'existait pas. C'est groupe et symétrie. Mais j'ai un peu peur que ce soit trop digeste pour les étudiants. C'était bien, quand j'étais étudiant, ça n'existait pas les trucs pour les undergraduates. On faisait que des trucs pour les postgraduates. Alors on est obligé de taper des bouquins de maths où il y avait tous ces résultats-là, mais au milieu d'une foule d'autres choses qui fait qu'on ne comprenait rien. À la sortie de ces études, même avec une maîtrise, on ne comprenait rien. C'est comme dans la psychanalyse, on ne comprend rien. Et puis voilà que, enfin, du moins on n'est pas capable d'expliquer. Alors il faut devenir prof, parce que on devient vraiment quelqu'un de sérieux quand on est prof. Quand on a besoin d'expliquer. Et là, Armstrong, c'est les Anglais, les Américains qui sont formidables pour ça. Ils surplombent. Je ne suis pas sûr que les undergraduates se rendent compte de la manière dont ce type a intégré la théorie des groupes et de la symétrie. C'est magnifique. Mais pour pouvoir le dire, il faut l'avoir mal compris, l'avoir enseigné, s'être corrigé, et finalement. Mais n'empêche que c'est un. Voilà. Moi, pour les surfaces, j'ai pris Griffith, qui est un Anglais. Il a fait un livre qui s'appelle Surface en anglais. C'est un type comme Armstrong pour les groupes et les symétries. Bon, seulement maintenant on fait des livres comme ça, c'est-à-dire qu'on fait des livres dans lesquels il y a très peu de résultats, il y a très peu de choses à apprendre. Chaque chapitre est très court, il y a des chapitres qui font 3 pages, il y a 2 théorèmes. Alors les types, ils vont avoir appris ça, s'ils n'arrivent pas à se rendre compte du geste, de l'acte, du prof, à mon avis, ça ne va pas les aider. Bon, c'est une question à poser aux éditeurs, ça, cette histoire que, hein, à vouloir rendre tout digeste, voilà. La psychanalyse, à mon avis, à vouloir la rendre digeste, c'est plus la psychanalyse. Je suis navré, moi j'aimerais bien que ce soit moins difficile, mais c'est très difficile. C'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Et alors, regardez, Lacan, il ajoute un truc, il en vient à propos de ses formules, de ses structures cliniques, de ses formules, il en vient à parler, là, dans la leçon du 9 avril, des anagrammes. Alors, il y a les anagrammes de Saussure, il y a les anagrammes de Galilée, là, il parle des anagrammes de Galilée. Le jeu de la lettre, vous voyez, les permutations ici, là-dedans, donc pourquoi ne pas ajouter les anagrammes ? Moi, je me demande pourquoi personne dans la psychanalyse ne développe un commentaire de Trubetskoy. Quelle différence y a-t-il entre les anagrammes et la phonologie ? Moi, je ne comprends pas que depuis des années, personne ne reprenne les indications données par Jacobson dans deux livres. Hein, c'est Les 6 leçons sur le son et le sens, magnifique. C'est comme Armstrong, Jacobson, 1942 à New York. Il y a de quoi se foutre en l'air, tellement c'est beau. Hein, 3 chapitres pour expliquer ce que c'est que le phonème, que personne n'écoute ce que dit l'autre, que tout le monde ne sait dire aux autres que ce qu'il veut, lui, le récepteur, génial. Que les profs d'anglais, hein, ils peuvent, ou les profs de langue en général, vous savez, qui corrigent les élèves, ils leur disent non, vous prononcez mal, c'est pas ce, c'est ce. C'est ce. Ceux qui le font le mieux, c'est les déchiens. C'est Émile qui m'a rappelé ça, c'est les déchiens. Les déchiens, ils ont fait des cours comme ça, c'est génial. Là, on voit vraiment que le phonème, c'est un truc extraordinaire.
Ça n'a rien à voir avec le signal, rien à voir avec la phonétique, c'est la phonologie. Et quel rapport y a-t-il entre la phonologie, ce que après Benveniste on a essayé d'appeler la sémiotique, ce que vous trouvez chez Kristeva par exemple, et toute cette sémiologie, mais ce n'est pas la sémiologie, c'est la sémiotique, c'est les sémioticiens, c'est s'intéresser après la phonologie à quoi ? La psychanalyse, elle ajoute qu'une seule chose, c'est cette signification. Le phallus, c'est-à-dire cette question de l'énonciation. La théorie de l'énonciation, il ne peut pas y avoir de théorie de l'énonciation scientifique. Donc là, notre approche de la langue, c'est la sémiologie, la sémiotique, appelez-la comme vous voulez, c'est la phonologie de Trubetskoy. Hein. Martinet aussi a écrit des choses qui sont à retenir, bon, bien qu'ils soient un peu plus réactifs. Maintenant, à son âge, avec l'âge de Milner, il apprécie Martinet. Il dit que la grammaire générale, même, c'est la seule discipline linguistique scientifique au sens de Chomsky, justement. Bah, c'est une catastrophe, c'est le salle de Vienne, c'est Popper. Bon. Donc, Trubetskoy, c'est le seul résultat scientifique qui a produit la linguistique après Saussure, grâce à Baudouin de Courtenay, plus que de Saussure d'ailleurs, enfin qui a suivi le programme proposé par Saussure, c'est Baudouin de Courtenay. C'est Trubetskoy, l'ami et le maître de Jacobson. C'est magnifique, et les trois chapitres suivants de ces trois leçons, là, de ces six leçons, c'est quand il démontre comment on peut introduire de la symétrie dans les consonnes du français grâce à cette simple différence qu'il y a entre phonétique et phonologie. Si on sait faire cette différence, on sait lire. Et le tableau des consonnes du français, qui plein de trous, tenait plein de trous, et ben, hop, ça se plie et ça devient un tableau avec 9 cases. Lisez ça, c'est bijoux. Enfin, si vous ne voulez pas lire les groupes, les symétries de Armstrong, lisez au moins les 6 leçons sur le son et le sens. Et puis, il en parle, Jacobson, aussi dans la charpente phonique du langage. Il raconte l'histoire, et puis dans le deuxième volume des problèmes linguistiques généraux. Le premier volume des problèmes de linguistique généraux, c'est plutôt la grande question des deux aphasies, là, des deux versants du langage, et puis ce qui martèle pendant une dizaine de fois dans le premier volume de ses essais, là, de ses écrits, Jacobson, c'est l'histoire du métalangage. On dit qu'il n'y a pas de différence. La seule différence qui existe entre un code et une langue, c'est vraiment du langage et pas du code, c'est qu'il y a toujours, il y a nécessairement cette capacité, cette compétence du métalangage. Mais que ce n'est pas un métalangage. C'est ça qui est incompréhensible pour la pensée scientifique contemporaine, puisque ça paraît logiquement contradictoire dans les termes. Le langage, c'est nécessairement du métalangage. Mais ce n'est pas un métalangage, puisqu'on peut faire la grammaire du français en français, de l'anglais en anglais. Mais vous êtes sûr, dit Jacobson, que vous avez affaire à un sujet du langage quand vous pouvez l'interrompre et lui poser une question. Ce que vous pouvez toujours faire, moi. Hein, je ne vous laisse pas beaucoup de place, mais il y a 2 semaines, on a quand même passé la soirée à répondre à des questions. Bon. Donc, et de toute façon, à mon avis, c'est une très bonne chose, puisque nous ne sommes pas des mouettes, nous ne sommes pas des foules, nous ne sommes pas des boutons de panurge. Pourquoi ? Parce que nous pouvons le devenir en classe. Hein, quand vous parlez à un groupe, le niveau intellectuel de chacun baisse, vous le préviens. Et puis, vous ne pouvez pas parler entre vous, il faut parler par rapport à moi. Il faut me poser des questions à moi. Et en général, quand quelqu'un vient est en retard, là, comme les abeilles dans les ruches de Benveniste, il y a une abeille qui vient en retard, elle demande qu'est-ce qu'elle a pensé, elle ne demande même pas parce que personne n'est capable de lui répondre. Les abeilles, elles ne répètent pas, il n'y a pas de transmission, il y a de la communication sans transmission. C'est juste, elles ne peuvent pas répéter le message qu'elles ont. Elles savent lire le message une fois, c'est une danse qui indique la direction et puis les kilomètres à parcourir pour atteindre les fleurs, mais aucune ne va le répéter. Bon. Et quand les humains, effectivement, vont se mettre en foule, eh ben, ils se conduisent comme des abeilles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de langage, il n'y a plus de métalangage, parce que le fait de répéter, c'est équivalent au métalangage. C'est ça, le mythe intérieur. Le fait de répéter, c'est un commentaire. Mais ce commentaire, il peut se réduire toujours dans le langage. Je vous dis, la grammaire de l'espagnol ou de l'anglais, ça se fait en espagnol ou en anglais, vous voyez. Et donc, Lacan, ce qui fait marcher pendant des années, c'est ça. Avec le 8, là. Vous voyez ? Bon. Vous faites un 8, comme ça, un 8 intérieur. Bon, pourquoi il ne fait pas un 8 extérieur ? Il pourrait faire un 8 extérieur. C'est aussi plié, c'est un rond plié avec un croisement. C'est pas un nœud, ça ne tient pas, c'est pas encore un nœud, mais c'est comme ça. Quoi. C'est, je vous dis, c'est comme les ponts. C'est la naissance du nœud. Bon. Mais lui, Lacan, il le fait intérieur. Pourquoi ? Pour emmerder le monde. Ben non, pas tout à fait, parce que il fait un truc comme ça, c'est que, vous voyez, le 8 intérieur, c'est la coupure double de la bande de Mobius. Et cette coupure double de la bande de Mobius, alors je vous le mets comme ça pour que vous voyez bien que c'est bien le 8, vous voyez, il y a le croisement là où se trouvent mes doigts, vous le voyez peut-être pas bien, il y a un croisement. Hein, bon. Et là, quand il dit, ben ça peut, cette répétition freudienne, elle se ferme, vous voyez, ça fait un cercle. Les deux s'identifient. C'est-à-dire que sur la bande de Mobius, on le voit beaucoup mieux. Hein. Je vais vous le faire sur la bande de Mobius. Je le fais sur la bande de Mobius, que ça c'est chouette. Mais il faut réfléchir à ça, c'est ça la répétition. Voilà. Vous avez une bande de Mobius, et sur une bande de Mobius, vous avez deux sortes de coupures. Si vous mettez des coupures, vous avez cette coupure double, hop, qui dessine une bande de Mobius dans la bande de Mobius. Hein. Et puis vous avez la coupure simple. Qu'est-ce que c'est que la coupure simple ? Et bien c'est ce que je viens de faire. C'est la fermeture du 8 intérieur de ça. Là vous avez 8. Là vous avez un 8 intérieur. D'ailleurs, moi je connais des présentations de la bande de Mobius où il n'est pas intérieur, mais ça se produit quand même. On peut quand même fermer la bande de Mobius qui est anti. La bande de Mobius bleue qui est là. Voyez-vous, que je mets ici. Là il y a une bande de Mobius dans la bande de Mobius. Voilà. Vous voyez, son bord c'est un 8 intérieur. Ça c'est le schéma R de Lacan. Il y a ça, c'est la zone R, l'imaginaire, le symbolique et la zone R. Réalité psychique, c'est pas de réel encore à l'époque, 56. Et ça se ferme en une coupure. Le simple, la jouissance devient désir. Mais voilà, on peut dire ça comme ça. La zone, hein, la vérité trouve de la jouissance à s'opposer au savoir. Cette jouissance devient désir, voilà. C'est ce que ne font pas les analystes d'aujourd'hui. Ils parlent tous de la jouissance comme des curés. Faut pas te toucher, faut pas ceci, faut pas jouir, c'est pas bien. Faut réduire la jouissance. C'est les mêmes, j'ai remarqué que Beaufils, dans la réponse qu'il vous fait, la deuxième lettre qu'il vous fait, il dit aussi, oui, il finit par dire jouissance phallique à la fin.
C'est très compliqué à comprendre.
N'est-ce pas ?
Il faut dire non à
il faut dire non à la fonction phallique. Oui. Mais parce qu'il y a une jouissance autre.
C'est pas qu'il faut dire.
Non, mais la clé de tout ça, la clé de ça, c'est des phrases qui se trouvent dans comment ? Vous avez ça dans Kant avec ça. Lacan dit, le sujet, il écrit, le sujet, n'est-ce pas ? S'il méconnaît ce que je vais dire maintenant, il montre ce qu'il refoule. Alors tout de suite, les chefs lacaniens, ils se sont dit, pour être chef, il faut au moins qu'on voit un peu ça de près, pour qu'on ne soit pas bête. Donc on va regarder près qu'est-ce que dit Lacan. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit Lacan ? Il dit, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Qu'est-ce que c'est ce qu'il ne faut pas méconnaître là, au prix de, si on le méconnaît, de montrer ce qu'on refoule. Il dit, un plaisir, un déplaisir se produit sur le chemin de la satisfaction du désir. Et provoque le refoulement. Et, c'est une citation libre, hein, vous pourrez voir le texte, c'est dans la troisième partie, c'est le dernier tiers, c'est au début du dernier tiers de Kant avec ça. Je l'ai là, hein, si vous voulez, on peut le dire explicitement, mais je vous le dis comme ça. Bon. Un déplaisir se produit sur le chemin de la satisfaction du désir. Ça produit le refoulement, et ce déplaisir va devenir la satisfaction, va prendre la place de la satisfaction. Hein, dans le retour du refoulé. Bon. Alors tout de suite, tout le monde se dit, ah ben oui, voilà, c'est pour ça, jouir, c'est pas bien. La jouissance, c'est pas bien, parce que C'est un déplaisir, et le sujet, il jouit dans ses symptômes, mais il se plaint des symptômes, et en même temps, il en jouit. C'est un hypocrite. Bon. On confond le bénéfice secondaire du symptôme. Freud en parle du bénéfice secondaire du symptôme. Il dit, regardez comment il en parle, Freud. L'avenir d'une illusion, il dit, le mutilé de guerre, il est faux qu'il ne tire pas quelques bénéfices de son infirmité. Mais il ne dit pas, il jouit dans son infirmité. Il ne dit pas, l'infirmité, il a perdu une jambe à la guerre, c'est ça qui va l'avoir provoqué le refoulement. Tous ces gens-là, c'est pas un petit bobo, c'est même pas le fait d'être mutilé à la guerre. Le déplaisir qui se produit sur le chemin de la satisfaction du désir, et qui va devenir la satisfaction du désir, la jouissance. Dans le retour du refoulé, c'est quoi ? Ce déplaisir, mais c'est la découverte de la castration de la mère. C'est pas la menace de castration, c'est ni la prétention mâle, ni le pénis naine, qui est très méchant. Le pénis naine, dire qu'elles ont envie du pénis, les dames, non. Lacan, il dit des choses beaucoup, beaucoup plus précises. Il nous dit créance impayée, c'est magnifique. Créance impayée, les femmes, elles ont raison. J'ai contribué, j'ai donné ma part, et je ne suis pas rétribué. J'ai pas envie de prendre. On les pousse là-dedans, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Qu'est-ce qui se passe ? La castration de la mère, pour le garçon comme pour la fille, c'est impensable. Ce n'est pas un petit déplaisir. C'est la destitution subjective. C'est destitution. C'est à partir de là que commence ce qui est véritablement inconscient, ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, le sujet de l'énonciation, c'était venu bien avant, et là, maintenant, c'est patenté, c'est impensable, le sujet ne se pensera jamais énonçant son discours. Il ne peut pas prendre position comme énonciateur, comme sujet de l'énonciation. Mais il est divisé par ça. Le père sera radicalement inconscient. Dieu est inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas formulable consciemment. Je ne peux pas vous raconter des bobards parce que ce n'est pas racontable. C'est ça l'inconscient. L'inconscient, c'est quand vous êtes en train de lire ça et que vous êtes perdu dans vos pensées, dans vos calculs. Si vous calculez, vous faites des calculs, vous faites des réflexions, vous essayez de vous y retrouver, et que vous vous paumez dans vos calculs, que ce soit des calculs de géométrie des groupes, ou de symétrie, ou que ce soit des calculs dans la langue, vous voyez, quand vous êtes perdu dans votre calcul, vous êtes dans votre inconscient. Il faut en revenir. Et puis, c'est intéressant ensuite de se mettre à écrire justement là-dessus. Parce que si plus on écrit, plus on s'avance vers l'écriture du fantasme, plus on résout le symptôme. Il ne s'agit pas d'une écriture du symptôme. Le symptôme, c'est une écriture, et c'est une écriture ratée. Vous voyez ? C'est un retour, ça vient déjà de cet endroit où j'étais perdu. Et donc, ce déplaisir qui devient la satisfaction du désir, je vous dis, c'est le désir qui tombe sur le corps et qui fait que le corps, il voit que le désir se diffracte entre névrose et perversion, comme l'infrarouge et l'ultraviolet. Et quand vous avez ça, vous voyez bien que ce n'est pas des maladies. C'est les fous qui maltraitent les petites filles ou les petits garçons ou les tortionnaires ou les mères abusives ou les névrosés qui emmerdent toute leur famille. Et, vous voyez, il y a des fous névrotiques. Hein. Lacan, il dit que les hystériques et les obsessionnels, ce ne sont pas fous. Mais la phobie, vous avez plein de fous qui font de la phobie. Enfin, les hooligans qui s'écrasent dans les terrains de foot, dans les tribunes des terrains de foot, c'est de la phobie, c'est pas de la psychose. C'est pas parce que c'est collectif que c'est psychotique. Donc comment arriver à discuter de ça pour qu'on arrive à avoir une clinique effective, pour qu'on puisse parler de ces choses. Et pas d'une manière, vous voyez, moi ce que je déteste, c'est que tous les mecs qui font du théâtre ou du cinéma sur la psychanalyse, vous avez vu à cause d'Hitchcock, peut-être, c'est toujours des histoires policières avec des crimes. Et puis il faut toujours qu'ils nous présentent une séance d'analyse avec un divan, un mec sur un divan, une femme. Un criminel, un psychopathe. Et puis, alors, en plus, il faut toujours, même au théâtre, regarde, Didier Veil, bon, qu'est-ce qu'il fait, hein, Didier Veil ? Il met des divans, ou il raconte la vie de Freud, c'est la biographie, ou bien on nous met du divan. Moi, je trouve ça obscène. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans les cabinets de psychanalyste. Quand je suis dans mon fauteuil, heureusement, je ne vois pas. C'est une obscénité absolue. De montrer ça aux gens qui sont au théâtre assis dans la salle. C'est aussi obscène que de mal chanter World in Music. Non, mais c'est ça. C'est... Pourquoi vous croyez qu'on a besoin de faire de la littérature à partir de la psychanalyse qui soit aussi phénoménologiquement con ? Il faudrait voir comment on pourrait structurellement. Ce qu'on a de magnifique, c'est la littérature qui nous apprend justement qu'il y a un chemin qui nous apprend qu'est-ce qui se passe à cet endroit après. Comment ça s'écrit, ou ça s'écrit pas bien, ou ça s'écrit un peu mieux. Il y en a qui réussissent à écrire des trucs magnifiques. La chapelle Sixtine, je ne sais pas moi, les variations de Goldberg, il y a de quoi être étouffé, époustouflé. Alors pourquoi est-ce que les analystes, ils ont besoin de venir nous habituer à une culture psy qui est dégueulasse, qui est obscène. Voilà mon point de vue. Moi, je préfère les dessins. Certains peuvent penser que c'est des graffitis de bagnos, c'est ce qu'on trouve dans les toilettes, mais je vous promets que j'ai pas trouvé de toilette. Donc, je pense qu'il y a une petite différence. Ça peut paraître. Alors, il y a des gens qui disent aussi, ah oui, c'est biologique, on dirait vous voyez, des dessins de. Les gaps, on dirait que c'est de la matière organique. Mais ça, c'est la vision, justement, vitaliste, bergsonienne, qui vient à la mode. Vous avez remarqué qu'il y a une vitrine de Vrin consacrée à Bergson. Bravo Deleuze. Pauvre Deleuze. Le pauvre vieux, lui, d'être vitaliste et bergsonien, ben, il a réussi. Vous voyez, maintenant, Bertrand Gilly disait que ceux qui soutiennent ce vitalisme, aujourd'hui, c'est des philosophes spiritualistes. Vive Jacques Lang, vive comment il s'appelle, le Nabo, le président, je ne sais plus son nom, mais il ressemble à Napoléon. Non mais quand même, c'est des gens, ils sont de la droite et de la gauche décontractés. C'est quand même terrible. Ils ont tout compris à Freud, ils ont tout compris au psy, ils ont tout compris à la mort du père, à Totem et Tabou. Moi j'ai entendu ça pendant toutes les années 80. C'était Mitterrand, il avait pas tué le père, ou il avait tué le père avec De Gaulle et tout ça. Non, mais c'est du bazar. Bon. Alors Lacan, il nous dit un truc vachement bien, là. Il nous dit justement à propos de ce bazar, il nous dit la chose suivante. Les anagrammes de Galilée. Il dit, il y a de l'écrit, là. Puisque l'écrit, hein, qu'est-ce que c'est que cet écrit ? D'avoir truffé des écrits, Saussure aussi, les anagrammes. Milner, il dit... Les anagrammes de Saussure, c'est un linguiste désirant. Il y a le linguiste savant et le linguiste désirant. Bon, moi, je ne suis pas sûr que ce soit si facile à les séparer. Hein. Le cantor désirant, cantor savant. Alors, les psychanalystes, ils disent cantor psychotique. Ah, bravo. Cantor, c'est comme s'il ne savait pas lire. Cantor, c'est pas Hitler. C'est pas, il a pas... Cantor, il a inventé même un système d'écriture magnifique. Ça s'appelle la théorie des ensembles. On peut penser qu'on peut faire autre chose. Moi, je suis d'accord avec les mathématiciens qui pensent qu'on peut faire autre chose que Bourbaki. Mais quand même, Cantor, même les Chinois aujourd'hui lisent l'ensemble vide. Hein, comment si Freud a réussi ou le paranoïaque échoue, Cantor, il a écrit un truc comme ça, vous voyez. Bon, vous en avez. Spencer Brom, l'élève de Bruxelles, il a écrit un truc comme ça. Vous en avez plein les ordinateurs aujourd'hui, ça s'appelle arrobas. Ça, c'est la négation de A dans les systèmes d'écriture de Spencer Brown. Bon. Cantor, ça, c'est l'ensemble vide. Lacan, il écrit ça, lui, comme ça. Bon. Si c'est ça, les psychotiques, alors à ce moment-là, je pense que c'est comme Joyce, pas les psychotiques, je suis désolé. On peut ne pas vouloir lire Finnegan's Wake, mais c'est quand même. Lacan, il se pose la question pourquoi il a voulu le publier. Mais n'empêche que c'est sûrement pas psychotique. Et donc, les anagrammes, Finnegan's Wake, le côté jeu des petites lettres, qu'est-ce que nous dit Lacan ? Il dit, est-ce que là, on ne sent pas quand même qu'il n'est supporté par rien dont nous puissions témoigner ? Il nous faut bien admettre que c'est l'écrit qui supporte, qu'il y a là une sorte d'entité de l'écrit. Dans les anagrammes, il y a quelque chose qui se joue. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette entité, dit Lacan ? Comment traduisons-nous entité de l'écrit ? Est-ce que nous le pousserons du côté de l'être ou du côté de l'étant ? Allez hop, retour à l'ontologie. Et Lacan ajoute, c'est dans la leçon du 9 avril, hein, c'est 1969. Là, il est en train de préparer le séminaire de Saint-Aube. Hein. C'est ça dont il est question avec la droite infinie, que je reprendrai en décembre pour commencer mon commentaire sur le Saint-Aube. Est-ce que cette entité, est-ce que c'est l'ousia ou est-ce que c'est l'os, quoi, le on, l'on? Je crois qu'il faut mieux abandonner cette direction. Cette direction, c'est pas Jung, mais c'est du même là-bas. Il faut arrêter ça, de s'engouffrer dans ce. Qu'est-ce que Lacan nous propose? Il dit, et je vous propose quelque chose qui a son intérêt d'aller dans le même sens que ce que j'avais déjà tracé, comme l'a fait remarquer comme ça un vieux sage, hein, du temps où on savait quand même écrire ce qui s'imposait du langage, n'est-ce pas? Une route qui monte, c'est la même que celle qui descend. Hein, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Il dit, Lacan, il dit, bon, ben, je vais vous raconter un truc qui va dans ce sens-là. Alors, je pourrais vous proposer comme formule de l'écrit le savoir supposé sujet. Alors, évidemment, quand il y a une formule massue comme ça, on va s'en emparer et on va faire des incantations avec. Hein, c'est le savoir supposé sujet. Bon, on avait déjà le sujet supposé savoir, c'est la théorie du transfert, il faut voir ce que c'est devenu. Bon, Lacan, il a bien préparé son coup, hein, de manière à ce que tout le monde fasse du patinage artistique. Moi, le sujet supposé savoir, quand j'ai expliqué ce qui se passe dans le banquet de Platon, il y a un jour une dame psychanalyste qui m'a dit, mais c'est incroyable ce que tu racontes, on n'a jamais entendu ça. J'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais entendu un truc pareil. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas lire le banquet. Quand ils lisent le Seigneur de Lacan, ils lisent pas le banquet. Il faut lire le banquet. Qu'est-ce qui se passe avec Alcibiade à la fin du banquet? Hein? La théorie de l'amour de Socrate, pas de Platon. Pour Platon, oui, c'est Diotime qui lui fait connaître à Socrate les différents étages. Il met ça dans la bouche de Socrate qui raconte. Il monte les étages avec les beaux garçons, les beaux corps, la beauté, puis il arrive à l'empirer, là, il voit les modèles de la beauté, puis là, il est imprégné, comme Deleuze l'a très très bien expliqué, le maître antique, il a vu la révélation, il l'a eu, mais plus que encore que le chrétien. Il est avec sa révélation, puis il sait le bien. Bon, c'est le contraire, comme l'explique Deleuze, du kantien qui lui, du moderne, du maître moderne qui lui, il a besoin d'avoir les axiomes qui vont définir sous l'aspect des impératifs catégoriques comment faut faire et pas faire, et puis de ça il va falloir essayer de définir le bien, le souverain bien. Et Lacan il dit objet érotique. Avec cette manière de faire, on n'arrive jamais à l'objet. On court dans la critique de la raison pratique, on court après l'objet, ça donne son caractère érotique au texte, mais on trouve jamais le souverain bien, on trouve jamais le bien chez les modernes. Hein, on court toujours. Ça c'est Kant avec ça. Bon, donc cette histoire de sujet supposé savoir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que Socrate, dans le transfert, on nous explique bien que Socrate, il avait un savoir sur le désir. Cette histoire de castration qui vient de la satisfaction du désir et qui fait que quand ça tombe sur notre corps, le désir est diffracté, on assiste à la décomposition du désir. Ça ruisselle et ça ravine. Bon, je vais effacer le dessin. Voilà. Vous avez là quelque chose qui n'est pas une maladie, c'est comme ça. Nous sommes divisés entre la névrose et la perversion. Il n'y a qu'une chose qui est nouvelle, c'est le psychotique. On dit ça, tout ça, ça ne doit plus exister, service compris.